Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 FM. Vous écoutez ce soir l'émission de La Forêt des Possibles, comme chaque mercredi. Et évidemment ce soir, nous sommes le mercredi 30 avril et nous serons en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion de 9h à 10h sur radiogalère.org et sur Spotify. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons des liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez à prendre votre juste place du moi au nous et du nous au tout dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Mathieu Cheminal et aujourd'hui je suis accompagné de Claire en studio.
Bonsoir, ravie de vous retrouver.
Salut Claire, de Félix et Elissa en régie.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Et nous accueillons ce soir Céline Albinet, qui est cofondatrice du projet Clean My Calanque. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Clara Bonnet, responsable de projet et photographe de Clean My Calanque.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir.
Clara. Et donc Clean My Calanque, en quelques mots, c'est une association marseillaise qui mobilise les citoyens pour nettoyer la nature et sensibiliser à la protection de l'environnement en mêlant des actions concrètes, on y reviendra largement tout à l'heure, de l'humour et un engagement collectif. Donc on a une petite heure pour vous raconter ce chemin d'engagement que vous avez pris toutes les deux et explorer comment il contribue à transformer notre monde avec, vous le verrez, une allégorie de l'arbre, comme on a l'habitude de faire ici dans La Forêt des Possibles, pour cheminer du moi au nous et du nous au tout. Eh bien, on va commencer tout de suite. Déjà, j'ai envie de vous demander comment ça va, toutes les deux. Quel est votre niveau d'énergie aujourd'hui, en ce 30 avril ?
Ben écoute, ça va. On est un peu dans plein de projets en ce moment, dont on va vous parler d'ailleurs. Mais du coup, c'est un peu la course, mais ça va. On a encore de l'énergie et on est encore là pour monter encore plus de projets.
Tout à l'heure, elle a dit qu'elle était à moins 4 sur 10 quand même, niveau énergie.
Moins 4 sur 10 avant ce 1er mai.
Ouais, mais maintenant ça va mieux. Là, je suis au micro et voilà, j'ai regagné de l'énergie.
Non, ça va, ça va. Mais on a hâte de vous parler de tous les projets, ça c'est vrai.
Eh ben, on a hâte de vous entendre. Alors, avant de vous entendre sur le projet et les projets que soutient Clean My Calanque, on va parler de vos parcours respectifs. C'est vos racines, nous, dans notre allégorie de l'arbre. Moi, j'aime bien demander à nos invités chaque semaine qu'est-ce qui vous amène à vous engager dans ce projet écologique et dans cette association ? Et éventuellement, quel est votre déclic ou votre moment de bascule ? À quel moment vous avez eu envie de vous engager ?
Moi, le moment de bascule, ça s'est fait quand j'ai commencé à travailler. L'asso avait déjà été lancé, ça faisait déjà 2 ans, je crois. Eric a eu l'idée du projet. Moi, je l'ai suivi de suite parce que je trouvais l'idée très, très cool. Mais voilà, c'était juste un projet comme ça. C'était même pas encore une association au départ. Ça s'est fait que plus tard et que pour choper des points à la fac, en plus, il faut le dire, il faut être honnête. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler dans mes premiers tafs, clairement, je m'ennuyais atrocement. Et je me suis
c'était
dit, mais.
C'était quoi tes premiers tafs, par exemple ?
Ben, alors, c'était dans la communication, parce que moi, j'avais repris des études dans la communication. Mais, par exemple, je bossais dans une boîte qui faisait du test de performance informatique. Genre, comment faire pour qu'un site ne crache pas quand il y a plein de gens qui vont dessus, quoi. Notamment, ils bossaient avec The Voice de je sais plus quel pays, pour que quand tout le monde vote, que ça continue d'exister. C'était très cool, mais c'était ennuyant. Je n'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit, mais comment je pourrais retrouver le kiff que j'ai à bosser pour Clean My Calanque alors que c'est bénévole dans mon taf qui me rémunère et qui me permet de gagner ma vie. Et j'ai un pote qui m'a parlé de Jobs That Make Sense à l'époque, qui est une plateforme de Make Sense qui répertorie toutes les offres d'emploi, de stage, de CDI, de CDD dans l'économie sociale et solidaire. Donc les jobs qui aide les humains ou la nature, on va dire. Et j'ai trouvé mon futur taf qui m'a aidé à me lancer après dans l'aventure Clean Macalanque à 100%. C'était un incubateur de projets à impact social et environnemental. Et à force de voir plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses développer leurs projets, je me suis dit, mais en fait, go, pourquoi pas Clean Macalanque, quoi.
C'était quoi cet incubateur ?
Live for Good, okay. À Paris. Mais maintenant, ils ont plein d'antennes un peu partout. Okay. Très, très cool, je recommande.
Et c'est finalement devenu ton travail.
Exactement, je suis très contente.
Clara ?
Moi, j'essaie de réfléchir au moment de bascule. En vrai, je viens d'Aveyron, donc je viens pas de Marseille de base. Et j'ai toujours été proche de la nature, ça a toujours été important pour moi. J'ai fait mes études, j'ai fait des études de droit, je suis partie à l'étranger. Et en fait, je pense que pendant mes études, il y a vraiment eu une prise de conscience sur l'urgence écologique, notamment à l'aide de documentaires, de plein de choses où je me suis renseignée et j'ai vraiment pris peur. Où je me suis dit, ok, là il y a quelque chose, il faut vraiment que je devienne actrice de tout ça, de cette mobilisation. Et j'ai commencé à m'engager dans des assos étudiantes, tout simplement, qui étaient engagées pour l'écologie, le climat. Voilà, et ensuite, suite à ça, en fait, je savais pas trop où j'avais envie d'aller, et je me suis dit, c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît. Donc, j'ai fait un master à l'étranger, et je me suis spécialisée en droit de l'environnement et droit de la mer, parce que j'aime beaucoup la mer. Et ensuite, je suis rentrée en France, et la question se pose, ok, qu'est-ce que je fais? Et Climat et Calanque, que je suivais déjà sur les réseaux depuis un moment, parce que il faisait pas mal de bruit, j'ai vu qu'il cherchait de base quelqu'un en service civique. Donc je me suis dit, why not, let's go. J'ai envie en fait d'être un peu sur le terrain, parce que j'avais appris, tu vois, tout le côté théorie, tout le droit, tout le cadre juridique, et j'avais vraiment envie d'être sur le terrain, de comprendre les problématiques liées au terrain et de rencontrer des acteurs et des actrices du terrain. Donc j'ai postulé, ils m'ont prise. Et
meilleur recrutement.
Et ça s'est très très bien passé. Et du coup, mon contrat service civique s'est fini et ils m'ont engagée à la suite. Donc voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi que je suis dans l'asso et je me régale parce qu'on est vraiment acteurs et actrices de tout ce qui se passe. Et c'est
j'ai
cool.
Envie de te demander, comme tu es en service civique, évidemment, tu es du coup très jeune. Est-ce que
je ne le suis plus.
Je ne le suis plus.
Je l'y étais, et du coup, mais je suis quand même jeune.
Mais tu es quand même jeune. C'est quoi ça n'a pas changé encore.
Non.
Et c'est quoi ta plus grande fierté au quotidien dans ce projet?
C'est une question dure. Juste d'être vraiment, comme je disais, actrice de tout ce qui se passe et de lancer plein de projets, de toujours réfléchir en continu à comment sensibiliser les gens, et aller chercher des personnes qui sont pas forcément dans la sphère écologie et vraiment de les ramener à la cause et juste de leur montrer que l'écologie, ça peut être fun, ça peut être cool, il n'y a pas besoin d'être hyper calé là-dedans et juste on fait des choses ensemble et on est acteur. Et en fait, en étant acteur-actrice, tu sens une fierté de te dire, tu rentres chez toi le soir, tu te dis, ok, j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui a changé un petit peu pour au moins quelques personnes. Donc
tu
c'est
sais
cool.
Pourquoi tu te lèves le matin.
Exactement.
C'est le plus important.
C'est ça.
Et tu disais que tu étais passionnée par la mer. On y reviendra tout à l'heure parce que vous avez aussi, Clean My Calanque, ce n'est pas que du ramassage de déchets dans les calanques. Vous avez aussi des projets évidemment liés plus spécifiquement à la mer. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des sources de stress dans votre quotidien? On appelle ça les herbes folles ou dans l'allégorie de l'arbre, qui vous empêchent d'avancer comme vous voudriez dans ce projet?
Il y a peu de ressources, malheureusement. En tant qu'association, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on peut pas trop faire de prestations commerciales qui ramènent de l'argent parce que sinon, on perdrait le statut d'intérêt général et juridiquement, c'est pas ouf.
Donc prestations commerciales, tu veux dire par exemple faire de la vente de goodies
Pas forcément de goodies parce que ça, on n'est pas trop pour. Mais par exemple, des pollutions entreprises, faire payer les sensibilisations qu'on fait dans certaines écoles qui ont les moyens, par exemple, faire payer quand on tient des stands à des festivals, etc. Mais en fait, tout ça, on est très limité en tant qu'association d'intérêt général. Et malheureusement, on a tellement de projets qu'on a besoin de beaucoup de monde, sauf qu'on n'a pas les ressources humaines qu'on devrait avoir pour mener à bien tous nos projets. Et du coup, on est quand même un peu fatigué. C'est vraiment, je trouve, la plus grosse source de stress, c'est de devoir jongler entre tous les projets. Quand il y en a un qui se termine, il y en a trois autres qui arrivent derrière. Et c'est un peu... Enfin, c'est... on a pas mal fait des burn-out à la suite les uns des autres dans l'équipe, donc on s'impose des vacances à chaque fois dès que possible. Mais je dirais que c'est quand même ça le... Enfin, dis-moi, ouais. Clara, toi, ton avis, mais non, je pense mais que c'est ça le plus gros frein.
Je suis assez d'accord, et effectivement, la question des vacances, elle est importante, parce qu'en fait, on a tellement de projets qu'on n'arrive même pas à prendre des vacances, parce qu'on se dit, il y a toujours quelque chose, ouais. Et on se l'impose pour notre santé, et pour être aussi pouvoir être en forme, quoi.
Mais c'est on bosse le week-end beaucoup, on parce que les samedis, dimanche, y a toujours des événements, des festivals, et il y a un match de l'OM,
ça s'arrête jamais, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a toujours. C'est pas un emploi où vraiment c'est tu clock in, clock out, enfin tu fais du 8h, 18h et c'est
elle
fini.
Elle a poussé à l'étranger, c'est bon.
Donc, je dirais le manque de ressources humaines. On a beaucoup de bénévoles avec nous, mais malheureusement, tout le monde a des emplois. Enfin, on est tous obligés de travailler pour se nourrir, quoi.
Oui, je comprends bien. Moi, je bosse dans une association aussi et c'est vrai que c'est juste
laquelle?
Équilibre. Alors, ça s'appelle le Centre d'innovation et d'usage en santé. Qui fait de la promotion et de la prévention de la santé sur Marseille et ses environs. Et voilà, j'ai envie de dire se protéger pour mieux protéger la nature.
Non, mais complètement.
C'est ça. Ouais. Une petite réflexion qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, je me demandais, est-ce que le fait de travailler, d'avoir un emploi qui fait du sens, où tu sais pourquoi tu te lèves le matin, est-ce que le prix à payer, je mets des guillemets, c'est pas justement d'avoir une frontière vie pro, vie perso très faible et au final avoir du mal
clairement.
À couper
clairement. Oui. Surtout que même dans l'asso, tu vois, on est l'équipe qui travaille, on est tous très amis, donc on est vraiment tout le temps, des fois on se voit en dehors
du boulot.
En fait, même en dehors du travail, tu vois, on se retrouve pour des trucs et ça dérive tout le temps sur le travail parce qu'on est toujours, on y pense et effectivement, comme tu dis, c'est un emploi qui a du sens. Donc tu es toujours dans la réflexion, à l'arrière de ta tête, en train de réfléchir à comment améliorer, quoi faire de plus, etc. Donc c'est le fait que ça s'arrête pas trop en fait. Mais on aime ce qu'on fait.
On est heureux, hein.
On est heureux, oui. On est heureux, on est heureuse.
Épanoui.
Ouais.
Avant de vous demander comment s'est passé votre premier ramassage, j'ai envie de vous demander de nous communiquer un peu vos missions, à qui elles s'adressent, qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien ?
Concrètement, au quotidien, on fait des ramassages de déchets. Donc ça, c'est la première activité de l'association qui est celle qui nous a fait connaître aux yeux du grand public. Mais on s'est très vite rendu compte que c'était malheureusement pas suffisant parce qu'au bout de la 30e fois à dépolluer la même calanque, il faut bien se rendre compte qu'il faut faire un peu plus. Donc un des deuxièmes axes sur lesquels on est très actif, c'est la sensibilisation, que ce soit au niveau des scolaires, de la maternelle jusqu'à la fac, des entreprises, mais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on est à une ère où tout le monde a Instagram, un téléphone, etc. Et donc, c'est un vecteur de sensibilisation qui est énorme et qui est non négligeable aujourd'hui pour toucher le plus de monde possible. Et à côté de ça, on a plein de projets qui sont tous liés à la sensibilisation, mais on va avoir des collaborations avec l'OM. On organise un festival de musique, là, dans quelques semaines maintenant, le 31 mai à la Friche Label de mai.
Ici même,
exactement. Mmh. Donc, en fait, on a plein de petits trucs. On a les Brigades Vertes, que justement Clara a participé à lancer parce que c'est pour ça qu'on l'avait recruté à la base en service civique, et Brigade Bleue depuis très peu de temps, où on équipe les habitants et habitantes de la ville en matériel pour qu'ils puissent être complètement autonomes dans la dépollution des déchets à Marseille. Donc voilà, on a plein de petits projets comme ça qui gravitent.
Et alors comment c'est reçu par les citoyens, comment c'est vécu, comment on rend le ramassage de déchets sexy, j'ai envie de dire. Clara.
Je dirais peut-être pas sexy, mais ludique plutôt.
Ludique. Ouais.
Parce que, surtout moi qui n'étais pas là au début de l'association, j'ai été bénévole dans d'autres assos et du coup j'ai un peu pu faire le comparatif. Et c'est vrai que ce que je trouve qui est l'identité de Climat Calanque, c'est vraiment le fun. Quand vous venez sur les ramassages, il y a de la musique, il y a des cadeaux à gagner, il y a à manger. Parfois on offre à manger, on offre des pizzas. Et c'est vraiment, en fait, venir pour faire une dépollution, mais faire autre chose, c'est-à-dire rencontrer du monde, partager un moment convivial. Et ça partit vraiment à ce que les gens qui viennent, on a des retours très très positifs, des gens qui viennent et qui nous disent mais c'est trop bien, j'ai passé une trop bonne après-midi, alors que en général, aller dépolluer, comme tu dis, c'est pas très sexy, on a un peu envie de faire autre chose son dimanche après-midi. Ben non, Climat Calanque, je trouve, a réussi à rendre quand même cette activité très ludique et donner envie aux gens de revenir. Donc je dirais c'est très ludique.
Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous faites de la sensibilisation ? J'entendais l'autre fois, moi j'ai participé à un trek où je voyais dans la communication, en fait on se rend pas compte, mais c'est hyper, hyper important. Si chaque personne qui va en rando ne ramasse ne serait-ce qu'un seul déchet, ça va très vite en fait. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette conscience-là quand on va se balader. Donc comment vous faites ? Est-ce que vous faites de la sensibilisation auprès des jeunes publics ?
Oui, comme te disait Céline, on est quand même tous les jours dans les écoles. Okay. On sensibilise les entreprises, on sensibilise également les citoyens avec les projets Brigade Verte, Brigade Bleue. On est présent sur les festivals aussi beaucoup parce qu'on sait que la jeunesse est quand même c'est les citoyens et citoyennes de demain. Donc on est quand même très présent pour les sensibiliser dans les milieux où ils sont. Donc les festivals, les milieux festifs.
Plein de bière.
C'est ça. Mais oui, on essaye de vraiment aller sur tous les niveaux. Ouais, je pense qu'on essaye quand même de sensibiliser un maximum de monde par différents moyens.
Moi, ma question, c'était de savoir combien vous êtes au sein de Clean My Calanque.
Il y a combien tu penses?
Je pense que je dirais une quinzaine.
Ah, j'adore. À chaque fois, c'est une dinguerie. On est 5.
Ok.
Qui travaillent. 3 salariés.
Ouais.
Un freelance. Et une service civique, du coup, qui est Véran, qui nous a rejoint pour remplacer Clara et qui, elle, déploie maintenant, continue de déployer les brigades vertes et déploie les brigades bleues. Mais du coup, non, on n'est pas beaucoup. Après, et heureusement, on a toute la flopée de bénévoles. On les appelle les bénévoles plus. C'est ceux qui sont vraiment là à tous les ramassages depuis des années, qui connaissent super bien l'assaut, qui sont vraiment nos porte-parole, nos ambassadrices et qui, sans qui, clairement, on aurait coulé parce qu'on aurait été épuisé de tout le taf qu'il y a à faire. Donc, si on compte les bénévoles, on est en effet dans ces eaux-là.
Okay, ouais.
Mais sinon, équipe, core team, comme on l'appelle, à bosser régulièrement sur le projet, à être rémunéré, tout ça, on n'est que 5.
Ok. Bah, bravo.
Merci. Mais c'est intéressant parce que souvent on pense que on est beaucoup plus ouais. Et les gens sont étonnés, mais oui on est.
Et j'ai une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs. Je crois que on a commencé à être subventionné au bout de 4 ou 5 ans d'existence, très très tard. Et la première année où on a demandé les subventions, ils nous les ont refusées parce qu'en fait on avait déjà une telle notoriété à Marseille. Ils comprenaient pas comment c'était possible qu'on ait cette notoriété-là en ayant genre un chiffre d'affaires annuel à 1000 euros, un truc comme ça, parce qu'on faisait rien payer en fait, tout était gratuit, nous on faisait juste ça sur notre temps libre, on s'en foutait, et ils nous ont refusé la subvention, on leur a dit mais enfin on comprend pas pourquoi, ils nous ont dit non mais il y a un problème dans vos bilans, c'est pas possible, vous essayez de magouiller quelque chose, on n'y croit pas que vous avez fait tout ça avec zéro thune, et on leur a dit mais je vous jure que oui, et on s'est fait sucrer une année de subvention à cause de ça.
Mais en fait, tout à l'heure, quand tu parlais là de votre présence sur les réseaux sociaux, du fait que ça soit vraiment un incontournable, je me demandais, est-ce que vous avez une équipe qui est totalement dédiée à créer du contenu ?
Bah, du coup, elle est là, l'équipe.
C'est ça.
Voilà.
Elle est devant nous.
Bon, on les 3 salariés, du coup, Eric, le cofondateur, Céline, la cofondatrice, et moi, on est quand même, on fait pas mal de com, et Céline est la directrice, donc c'est elle qui en fait le plus, on va dire, mais on essaie de l'épauler là-dessus, mais.
Au début, j'étais toute seule. Mais parce que, comme je faisais des études dans la communication, c'était un peu mon dada, quoi. Et en plus, on s'est lancé sur Instagram à l'époque où Insta arrivait en France vers 2017. C'était pas trop encore développé. Et on a été les premiers à faire ce genre de contenu sur Insta. Je pense qu'on se lance Clean Macallan qu'aujourd'hui, ouais. On n'aurait pas du tout le même impact parce qu'on serait noyé dans la masse de contenu. Mais sur ça, on a été chanceuse.
Et vous avez été pionnier.
Voilà, c'était pionnière. Simple de communiquer en fait à l'époque, je trouve, par rapport à aujourd'hui. Et après, Eric s'est formé, Clara aussi, et maintenant c'est plus Eric qui fait du contenu que moi. J'en peux plus. Moi, après 5 ans, j'ai dit c'est bon. Mais ouais, non, on n'est pas beaucoup quoi. Mm-hmm. Donc heureusement qu'il y a de la créativité parce que sinon, ça serait galère.
Et des subventions.
Et des subventions maintenant,
maintenant.
Dieu merci.
Oui. Dieu merci. j'allais vous demander quel était votre rapport avec la ville de Marseille, du coup, que le parc national des Calanques qui est quand même très protégé. Et du coup, j'imagine qu'il y a des actions en faveur de la protection de ce parc naturel. Donc,
Ouais, carrément. La ville de Marseille nous subventionne. Ça a été la première à nous subventionner sur les sensibilisations dans les écoles d'abord, maternelle, primaire, parce qu'après collège, lycée, c'est pas. Enfin, c'est une galère à comprendre ces trucs. Quand vous n'êtes pas du milieu, vraiment, c'est à se tirer les cheveux. Et on a des bons contacts avec eux. Enfin, on a très vite compris le gros dilemme ville-métropole que pas beaucoup de Marseillaises, Marseillais connaissent, paradoxalement, parce que c'est un peu compliqué cette espèce de gestion des déchets qui en fait n'est pas à la ville mais est à la métropole. Et ça, du coup, bah, nous-mêmes, on l'a compris en bossant dans l'asso. Mais non, franchement, c'est cool. Il y a plein de projets là qui vont arriver en partenariat avec les collectivités et tout. Donc, on est content. Ça a mis du temps, parce qu'au début, ils nous aimaient pas trop. Mais les abonnés et la notoriété font que on apprend à nous aimer finalement. Non, c'est très cool. Ça se passe très bien maintenant. On est très content.
Et quand vous avez fait votre premier ramassage, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ben moi, du coup, le premier ramassage, je l'ai fait avant même d'être en service civique, parce que du coup, je l'avais fait. Il faut savoir que quand j'ai fait l'entretien avec Céline, elle m'a posé la question, est-ce que t'as déjà participé à un ramassage, sachant qu'à l'époque, j'habitais pas à Marseille, j'étais sur Toulon pendant quelques mois, et j'avais pris le train et j'étais venue pour le faire parce que j'avais envie de participer. Et du coup, elle me demande à l'entretien et je lui dis oui, j'ai participé. Elle a été chercher la photo pour vérifier si j'étais bien là.
Pour ma défense, énormément de gens s'inventent des vies à nos côtés. On a vu sur LinkedIn des gens qui étaient responsables chez Climat Calanque alors que c'est pas vrai du tout, ou qui nous mettent dans leur CV pour dire qu'ils sont bénévoles alors que j'ai jamais vu leur tête. Du coup, c'était voilà.
Ah, mais c'est parce que la marque employeur est forte.
C'était pour rigoler.
C'est pour ça. Et du coup, effectivement,
elle ne
bien
mentait
là.
Pas. Voilà. Elle était là.
Et du coup, je l'avais fait vraiment en tant que bénévole lambda, j'ai envie de dire, à l'époque. Et c'est vraiment ça qui m'avait marqué, c'est le côté festif en fait, parce que moi, je venais d'années, j'ai fait beaucoup d'assauts. Étudiantes et pas étudiantes qui sont dans l'écologie, et j'ai jamais fait un ramassage où je me suis autant éclatée. D'habitude, on arrive, on ramasse, on compte les cotons-tiges à la fin. Enfin, c'est pas fun, quoi. Donc,
non, mais il
voilà.
faut le faire, c'est important.
Il faut
ne dénigrons pas les gens qui font la catégorisation.
Non, mais
c'est très bien.
Il faut le faire, bien
c'est
sûr.
Juste que
mais...
nous, c'est un parti pris qu'on a pris, c'est que il faut de tout pour attirer les gens sur des causes, quelles qu'elles soient. Et nous, on a choisi le parti pris de la simplicité. On fait des ramassages que de une heure. On fait le tri, mais de manière assez simplifiée. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme disait Clara, compter chaque coton-tige, chaque briquet, etc., etc. On est en train de se dire qu'il faut qu'on commence à le faire maintenant qu'on a pas mal de bénévoles.
Quel serait l'intérêt de le faire?
En fait, c'est hyper important pour faire remonter l'information au lobby des entreprises polluantes. Mmh. Par exemple, si tu es capable de dire qu'à Calongue, j'ai ramassé 500 bouteilles Heineken, tu peux aller toquer à la porte de Heineken pour leur dire... vous proposez quoi? Citéo, qui est l'organisme qui est chargé de taxer les entreprises polluantes, peut, grâce à ces datas-là, justement, mieux répartir les taxations. Mm-hmm. Si on trouve que de la Heineken, Heineken va payer plus cher pour contrer la pollution qu'une marque qu'on verrait jamais, par exemple, tu vois. Donc, en fait, c'est hyper important. Mm-hmm.
Mais au-delà de ça, j'allais rajouter aussi même au niveau européen, en fait, parce que ces données-là permettent de faire passer des lois au niveau européen. Ouais. Les lois qui sont passées sur le plastique à usage unique, par exemple. Ouais. Ça vient de données de ramassage, de dire on ramasse autant de paille, autant de trucs. Et du coup, au niveau européen, on a des preuves pour dire il faut légiférer dessus, il faut interdire. Et du coup, c'est hyper important, ces données-là. Donc,
c'est bien de le faire, mais c'est vrai que quand tu es sur un ramassage à 300 personnes, c'est pas aussi simple de faire une catégorisation aussi précise que quand tu es 10-15, tu vois.
À moins de faire un surtri après.
C'est ça. et on rentre chez nous à minuit. Mais du coup, c'est un parti pris qu'on a pris, qui nous a un peu été reproché par le passé aussi, parce que les gens pensent qu'on fait un peu ça que pour la visibilité, mais qu'il n'y a pas de réel engagement. C'est pas vrai. À titre personnel, on est hyper engagé. C'est juste que c'est un choix pour pas justement repousser les bénévoles, pas leur dire vous êtes là une heure et puis après on trie pendant tant de temps. On a bien vu que les gens, au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils en ont marre. Et nous, on n'a pas envie de s'imposer non plus, parce que encore une fois, à la base, c'était pas du tout à vocation de devenir un métier. Quoi. On faisait ça bénévolement, sur notre temps libre le week-end, etc. Donc on était en mode c'est déjà bien ce qu'on fait, faut pas non plus abuser, quoi. Mais là, maintenant que c'est un métier, qu'on est payé, etc., on tend vers cette professionnalisation. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ça sera pas c'est pas nos bénévoles qui vont devoir le faire, quoi. Ça va être les personnes qui travaillent plus avec nous qui vont plus s'en charger, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'on ramasse le plus comme déchets dans les Calanques?
De tout. Alors le plus, ce qu'on retrouve le plus, mais sur tous les ramassages, que ce soit Calanque ou pas Calanque, c'est les mégots. C'est vraiment c'est un fléau complet. Après, on ramasse beaucoup de plastique, des emballages.
Les bouchons, non? J'ai vu récemment que c'était les bouchons étaient les déchets les plus collectés.
Depuis qu'ils ont passé les bouchons qui s'accrochent aux bouteilles. Mais justement, ça, encore une fois, c'est une loi qui est passée par les données qu'il y avait. On avait ramassé beaucoup de bouchons. Maintenant, on en ramasse moins. On ramasse la bouteille entière, mais au moins
il y a le bouchon dessus, quoi.
C'est ça.
mais au moins on ramasse moins de ça. Non, en vrai, ouais, c'est plutôt les mégots, le plastique, les canettes, les bouteilles de verre, mais ça vient un peu dans un deuxième temps quand même. Et sinon, enfin, on ramasse des fois des trucs un peu étranges que tu t'attends pas à trouver dans les calendes.
Qui ont donné les déchets originaux, voilà, qui sont ceux pour lesquels on offre des cadeaux à nos bénévoles.
Tout à fait.
C'est-à-dire les déchets originaux.
Bah, justement, après quelques dépollutions, on s'est bien rendu compte qu'on trouvait des trucs parfois qui étaient très bizarres, et on s'est dit, bah, ok, ce serait cool pour gamifier justement l'expérience que les personnes qui trouvent des déchets originaux, bah, elles aient droit à un petit cadeau. Et comme avec la notoriété sur les réseaux, etc., on se faisait régulièrement contacter par des marques locales, artisanales, éco-responsables, etc., qui avaient besoin de mettre en avant leurs produits auprès d'une communauté niche qui était la nôtre, parce que association environnementale, on s'est dit, ok, ben vous avez envie de nous donner des cadeaux, nous on veut pas sélectionner les gens à qui les donner de manière aléatoire, c'est un peu dur, du coup, bah ok, les gens qui trouvent des déchets originaux, voilà, vous avez droit à des cadeaux. Et donc au début c'était Sapo Marseille, qui était partenaire avec nous, qui nous faisait des savons solides, en plus floqués Clean Macallan, que beaucoup trop stylé, et aujourd'hui on est partenaire des cinémas Pathé, qui nous offre des places de cinéma tous les mois.
D'accord.
On est partenaire des Spartiates, qui nous offre des places pour aller voir les joueurs de hockey. Enfin voilà, on a plein de petits partenariats comme ça qui sont tous plus ou moins écologiques, des massages voilà,
qui sont locaux.
Exactement, c'est local
au minimum.
Et justement, on va en parler de ces partenariats, puisque moi je me pose la question, qu'est-ce que vous en faites de ce déchet? Qu'est-ce qui deviennent nos déchets malheureusement laissés dans la nature?
Alors il y a une partie des déchets qui est revalorisée. On travaille avec des associations et des structures locales sur Marseille. Dans la région.
Sauvage Méditerranée.
Dont Sauvage Méditerranée.
Que nous avons reçu à ce micro
super.
Il y a quelques temps.
Ok. Bah, effectivement, on travaille avec Sauvage qui récupère les bouchons pour en faire des bijoux. Ils font des trophées, ils font plein de choses très cool avec ça. Ils broient le plastique, ça en fait des paillettes et après ils refont quelque chose avec. Donc ils ont tout un procédé. Bon, ils ont dû vous l'expliquer du coup. on travaille aussi avec Recyclope, qui est d'ailleurs ici à la Friche, qui revalorise les mégots. Ils en font de l'énergie et en fait, ça permet d'alimenter une centrale de déchets.
En gros, il faut savoir qu'un mégot, c'est très très toxique. Mais ça, l'État ne le dit pas à ce point, parce que sinon il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils en autorisent la vente et la consommation aux usagers. Mais en fait, quand tu jettes ton mégot, même à la poubelle, il va être incinéré et toutes les substances chimiques qui sont par milliers dans un mégot vont aller dans l'atmosphère. C'est pas cool du tout. Recyclope, il bosse avec une centrale de gestion des déchets dit hautement toxique. Du coup, c'est une centrale qui a tout un processus de filtration au niveau de l'incinération. Et donc, en effet, ils brûlent les mégots en même temps que leurs autres déchets. Et ils utilisent une turbine qui récupère la chaleur, ça fait de l'énergie. Et grâce à l'incinération des mégots, ils alimentent en fait en toute autonomie l'usine. Donc, c'est très cool.
Ok. Tu me parlais de Veolia aussi quand on a préparé l'émission, qui vous envoie du personnel.
Ouais, Veolia, ils sont très très cool, parce que le dimanche, alors qu'en plus on sait que ça coûte cher de faire travailler les gens le dimanche, ils nous envoient toujours John, big up John, parce qu'on l'adore depuis 5 ans, qui vient à tous nos ramassages, qui nous amène en fait des bennes de tri, de tout venant. Comme ça, une fois qu'on a fait le tri sur la bâche avec tout le monde, qu'on a fait les photos, tout ça, on n'a plus qu'à mettre le verre dans le verre, le plastique dans le plastique, le carton dans le carton, etc. Et eux, ils l'emmènent directement en centrale de tri, je ne sais plus où, ne me demandez pas, mais c'est trié.
C'est trié. Est-ce que vous avez une victoire ou un souvenir collectif marquant à nous partager sur ce projet?
Moi, j'en ai un qui est assez récent. C'est qu'on figure sur le nouveau Monopoly Marseille. Donc ça a été très cool et une belle reconnaissance. Et on était très contents et contentes parce que ça faisait 30 ans, il me semble, que la dernière édition était...
La question, c'est quelle couleur de case vous êtes?
Alors, c'est pas cool, ouais, on est sur une taxe d'imposition.
On n'a pas eu la meilleure case, mais
on est sur les deux. On est sur la caisse de communauté et carte chance, ouais. Heureusement. Tu as participé à un ramassage, merci pour ton engagement. Voici 30 monnaies Monopoly. voici ta contribution pour l'écologie. Et en gros, ils doivent nous filer 150 balles. D'accord. Mais on a essayé de tourner ça pour que ça passe bien.
Ouais.
Mais ouais, grosse fierté, ça fait plaisir.
C'est très cool.
Eh bien écoutez, on arrive.
Ah, et on
à
est
la
dans Plus Belle la Vie aussi,
l'émission.
Pardon. Ah, oui.
Vous êtes dans Plus Belle la Vie.
On est dans Plus Belle la Vie. On est bientôt sur.
Chut.
Ok. On vous dit pas.
C'est un secret.
Ok. Il faudra nous réinviter alors.
On va passer à la pause musicale, puisqu'on arrive à la moitié de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous dire la musique que vous avez choisie?
Bien sûr, c'est Cleaner Organisé, qui est la deuxième reprise de rap qu'on a faite en 2020. 2022, je crois, qui est, non, 2020, pardon. C'est donc une reprise écolo de Bande Organisée, du collectif Très Organisé, de Joule, SCH, tout ça, tout ça. On a juste modifié les paroles pour rendre tout ça écologique.
Et ma question serait de savoir comment vous avez fait pour tourner au Vélodrome.
Mais en fait, Clean Macalanque, ce n'est qu'un enchaînement de non-gêne, on va dire, et de culot. Et tout ce qu'on a toujours eu dans l'assaut, on est juste allé demander gentiment aux gens. Et ils ont, quand, même avant que le projet soit connu, tu vois, et qu'il y ait une raison, on va dire, de le faire, même dès le départ, on a toujours été voir les gens avec Eric, on se dit, voilà, on fait ça, est-ce que ça vous dirait de nous aider, de nous donner du matériel, etc., etc. Et les gens étaient toujours trop chauds. Donc c'est un vrai bonheur. Et en fait, on a juste contacté quelqu'un au Vélodrome. On a dû un peu forcer, mais au final, on a eu le stade, on a eu les ingés lumière gratuits, parce que normalement, même quand ils offrent le stade, c'est 4000 balles d'ingés lumière. Ils nous ont tout fait gratuit. On s'est régalé. C'était trop bien.
Waouh. Bravo.
Bravo. Et on écoute Cleaner Organisé.
Qu'est-ce que c'est? Elle connaît sa mère, j'ai mal au dos. Au même dans l'orange vélodrome, il y a mieux qu'au par terre. C'est un scandale, c'est. C'est scandaleux, c'est. J'ai appelé les collègues. Clean Macalanque. Voilà les mecs. Je viens de retrouver Mégo dans l'orange vélodrome, enfin. Par terre. C'est un scandaleux, je sais que c'est scandaleux. Et venez, faites quelque chose.
Calamité. Par terre le mégot, le cendrier et le raté. Tu m'as reconnu, écolo, c'est moi le trop. Prends conscience, ma chérie, c'est prendre conscience. Pour t'as tout l'été, ma plage tout grade est remplie d'essence. Tu veux jeter par terre, je suis exaspéré. On trouve des caddies, les calanques remplies de bouches de bébé. T'as pas de principe, et ramasse ta merde. C'est Marseille bébé, marre des déchets. Wesh alors ramasse. Trop dur ou quoi? Mégo tu chopes, mais ça, ça ne tient qu'à toi. Scandalisé, oh, par ces déchets, oh. Mais le but c'est sûr, c'est moins consommé.
J'ai passé le sac à Chiquita, deux secondes après elle a déjà trié. C'est jamais trop tard, les déchets faut les récolter. Hey, ça met la haine, hey, vous vont dégrader. Hey, si je te vois faire ça, ah, on va t'éduquer. Baisse-toi, fais du sport, fais pas le feignant, fais pas le mort. Ramasse tout sur la canne bière. Le port sur le vieux port. Oui, t'as tort quand y'a plus de place, c'est que ça déborde. Ramasse tout sur la canne de bière. Fais pas le port sur le vieux port. Hey.
Quand ça jette par terre les déchets, je me projette en train de les gifler. Salir sa maison sans réfléchir, sale raison de plus d'être au JT. Drogue, drame, violence, calache en plus des guns qui ramassent Notre-Dame. Veille sans relâche, tous en mode Genki Dama. Feu parté, enfuit tes baskets, à pied, gants, sac, efface nos dettes. Depuis le temps qu'on va droit au but, il est temps de valoriser d'autres vertus. Oh frère, ce que tu valides, ça supporter comme dans le stade. Passe, remontada, clean day, calanque à l'estac. Ma sœur, ce que tu valides, ça supportrice comme dans le stade. Passe, remontada, clean B, calanque à l'estac. Plus besoin de te rappeler la cause, faire briller de nif ma ville. Sur Twitter, je veux voir les posts. Marseille, on t'aime à la folie.
En bande organisée, ta calanque, on va la cleaner. Pollution banalisée, nettoyage canalisé. Basta les mégots, prends-en un. Basta les mégots, prends-en deux. Basta les mégots. Basta les mégots.
C'est du vin, pas de carafe. Avec tes potes, tu dis que c'est pas grave. On t'explique, ça nous rend malade. J'aime pas tes merdes quand tu te balades. Tes masques passent par là. Je vois que des plastiques, pas de karma. Y'a que des sachets imparables. Si le check s'écrase, j'cris ramasse. Si M6 c'est le S, ramasse tes restes. Une masse épaisse, alors Bélec KOUSS. Si M6 c'est le S, ramasse tes restes. Une masse épaisse, alors Bélec KOUSS.
Yo, fais pas le malin, pense un peu à demain. Tout ce que tu balances par ta fenêtre, ça se retrouve dans l'assiette de ton gamin. Ouais, ça fait trop longtemps qu'on se le dit, il serait temps de se mettre en appui. Si des gains se bougent le cou, les conséquences sont plus que terribles. Écoute bien mon grand, suis le mouvement, crois pas que t'es solo. Y'a de plus en plus de gens frérot qui prennent conscience que de tout saloper c'est pas beau. Et on va sortir le balai, oh, balai, oh, pour faire du sale. aller, on va tout nettoyer de Marseille à Paname. On va sortir le balai, balai pour faire du salé. On va tout nettoyer de Marseille à Paname.
Les gars, il est time, je te passe les détails. Tu vois que c'est sale, il serait temps de ramasser les calanques. Nos quartiers sont dégueux, même si tu sais qu'on craint des gains. Il serait temps de rafraîchir la beauté de Marseille, réfléchir. Saleté de goût crève, qui se dégage de l'égout, crame chauffe. Et vite, ça vaille, Marseille numéro 1, ça graille. Marseille, ça va, plus le time, les petits passent à l'acte. Fini la city, on finit thème, c'est Marseille, c'est mille tard, les Philippines.
En bande organisée, ta calanque, on va la cliner. Pollution banalisée, nettoyage canalisé. Basta les mégots, prends-en un. Basta les mégots, prends-en deux. Basta les mégots. Basta les mégots.
Se faire encadrer le mégot, ah.
Eh bien, on est de retour après ce magnifique rap cleaner organisé sur Radio Galère 88.4 FM. On est ensemble de 19h à 20h. Et ce soir, on reçoit Céline Albinet et Clara Bonnet qui font partie du projet Clean My Calanque. Alors, moi, je vais vous demander, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur votre impact. Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager depuis que cet asso existe, par exemple sur la quantité de déchets ramassés pendant vos excursions ou bien quelques sûr. Chiffres apportés à notre connaissance?
Non, nous n'aurions jamais de subvention. Je crois qu'on en est à la 185e dépollution en 8 ans, sachant que la première était en avril 2017. Ce qui représente à peu près 65 tonnes de déchets. Je dis à peu près parce qu'au tout début, bien évidemment, on ne pesait pas, parce qu'on n'avait pas du tout le matériel pour. Il y a des dépollutions que je sais qu'on a oublié de noter, mais voilà, à peu près 65 tonnes de déchets.
65 tonnes, ce qui est énorme.
Oui, on ne se rend pas compte en termes de volume ce que ça donne, mais c'est énorme.
Est-ce que vous avez, par exemple, le poids du verre, le poids des ordures quelconques, les mégots et tout ça?
J'ai tout, j'ai un tableur Excel, croisé, machin, j'ai tout. Ok.
Est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur les brigades bleues? Tu disais tout à l'heure les brigades
bien
bleues.
Sûr, mais
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces brigades bleues?
Alors, ça a été lancé dans la continuité du projet Brigade Verte, qui est le projet pour lequel j'avais été recrutée de base, qui est du coup, comme disait Céline tout à l'heure, de donner l'opportunité aux habitantes d'un quartier de s'engager. Et on leur fournit du matériel, on les met en relation avec des groupes WhatsApp et on s'occupe de leur trouver des partenariats, des petites réductions à droite à gauche dans le quartier. Donc il y a aussi un aspect social dans D'accord. ce projet, tu vois, pour un peu refaire du lien social dans le quartier, parce que on connaît pas nos voisins et voisines la plupart du temps. Donc sur cet aspect là c'est très cool, et il y a un aspect de sensibilisation énorme, puisque les gens passent dans la rue et voient des personnes ramassées et se disent, mais enfin, tu sais, ça interpelle beaucoup plus quand tu vois quelqu'un qui n'est pas un employé, malheureusement. Oui, c'est malheureux de dire ça, mais c'est la réalité. Oui. Donc ce projet a très bien marché, et en fait l'idée est venue, on en a parlé un peu à droite à gauche, de dire pourquoi on ferait pas la même chose dans l'eau, tout simplement.
Merci Étienne, je redonne à Étienne ce qui appartient à Étienne, qui est un bénévole qui nous a proposé de le faire dans l'eau, parce que c'est un plongeur. Et il nous a dit ce serait trop cool de le faire dans l'eau, et en fait on l'a fait un an après, et le pauvre, on a oublié de le recontacter, donc merci Étienne.
Merci Étienne.
Mais voilà, du coup c'est le même principe, donc
vous autonomisez les gens en fait pour
c'est
qu'ils
ça.
Le fassent,
donc là c'est un peu plus encadré, parce que du coup ça reste quand même une activité nautique, il y a un petit risque derrière, du coup on a un encadrant BPJEPS, c'est un peu dur à dire, pour encadrer les personnes qui vont faire ça. Alors pour l'instant c'est en snorkeling, donc en masque et tuba. Il n'y a pas d'apnée, il n'y a pas de plongée à proprement parler, voilà. Mais peut-être dans le futur, si on se développe. Mais voilà, du coup, on a eu la première opération. Vérane, du coup, la service civique qu'on a recrutée pour lancer ce projet, a fait la première opération ce dimanche. Ils ont ramassé 55 kilos. Wow. Donc, il y avait une partie mer et une partie terre, puisque les brigades vertes étaient aussi sur la plage. Et ça s'est très bien passé. Les gens étaient très contents. Et puis, c'est cool parce que ça reste quand même... Enfin, on est climat calanque, donc il y a une partie d'eau, tu vois, dedans. Donc, c'est cool de pouvoir faire ce projet-là.
Est-ce qu'il y a des différences de déchets entre les déchets collectés sur terre et sur mer, la mer?
Des différences, c'est-à-dire...
Je sais pas, est-ce que vous...
Non, c'est la même chose.
Les mêmes types de déchets?
Oui, c'est juste que tu vas plus ramasser du plastique parce que ça a tendance à flotter, que le verre, en fait, ça va couler et c'est plus difficile d'accès si tu plonges pas justement profondément. Mais globalement, c'est exactement la même chose. 80% des déchets en mer sont jetés, enfin viennent de la terre en fait.
Proviennent de la terre. Mais ouais. J'allais dire aussi plastique et mégots, parce que mégots flottent. Du coup, pareil, il y avait pas mal de mégots qui ont été ramassés. Et ouais, c'est sensiblement les mêmes choses, parce que des fois, c'est souvent sur la plage et juste c'est repris avec la mer, quoi. Donc.
Et j'aurais une autre question, parce que là, tu parlais justement des calanques.
Ouais.
Est-ce que, depuis que vous avez commencé, vous observez qu'il y a moins de déchets dans les calanques ?
Oui, bah alors peut-être Céline est plus légitime ouais, pour répondre.
Il y a moins de déchets. Déjà, nous, quand on s'est lancé, c'était en 2017, il y avait un déchet par jour qui venait aussi de se lancer, soit la même année, soit à peine une année avant. Du coup, il n'y avait pas énormément d'associations. Il y en avait, il y avait Mère Terre qui existait déjà, tout ça. Je ne connais pas la chronologie de tout le monde, mais toutes les assos sont un peu lancées autour de la même période. Du coup, quand on a démarré, on a ramassé beaucoup de déchets. Après, il y a eu le Covid, c'était horrible. C'était un carnage, on ramassait quasiment une tonne par ramassage. Et là, on remarque, je trouve, depuis plusieurs années, au lieu de ramasser 500 kilos, 600 kilos, comme c'était le cas à quasi chacune de nos dépollutions, là, on ramasse 200. 150, alors qu'on est beaucoup plus qu'à nos débuts. Donc logiquement, on devrait ramasser plus et on ramasse moins. Donc c'est bon signe. Je ne sais pas exactement quelle est la raison exacte. Est-ce que les gens polluent moins ? Est-ce que c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'associations, plus de ramassage ? Mais en tout cas, oui, on remarque qu'il y a quand même moins de déchets quand on fait des dépôts, quoi.
Mais en fait, les chiffres, moi, me paraissent énormes. Enfin, quand tu parles de 600 kilos avant, j'ai peut-être parce que j'y fais pas forcément attention, mais quand je me balade dans les calanques, j'ai pas l'impression qu'il y a autant
affolant.
De déchets. Je me dis même, tant mieux, c'est un endroit protégé. J'ai pas.
Mais
ce,
quand tu fais pas attention, tu remarques pas. Nous, combien de fois on est arrivé sur une dépollution? Ah mince, ça a pas l'air super sale et tout. J'espère que les gens ils vont pas trop s'ennuyer tout ça.
Ouais,
et une heure après, 500 kilos devant toi, t'es en mode oh waouh,
secret. Faut regarder dans les buissons.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est des choses que tu vois pas forcément de prime abord.
Sur les sentiers, mais en fait.
Mais ils sont là parce qu'ils sont poussés aussi avec le vent. Donc, des fois, notamment dans les calanques, ils sont un peu dans les buissons parce qu'ils sont poussés avec le vent. Et en fait, tu les vois pas à part si tu vas dedans. Et là, du coup, tu ouvres et c'est un peu.
Puis les gens jettent dans les buissons aussi.
Oui.
Ils sont stratégiques, ils veulent pas que ça se voit trop, tu vois.
Je viendrai. Vous m'avez convaincu de faire un ramassage avec vous dans les calanques. Et moi, je me posais aussi la question, comment on fait pour embarquer les entreprises ? Parce que les citoyens, c'est une chose. Et puis les entreprises polluent aussi énormément. Est-ce qu'un jour, au lieu d'aller faire un séminaire dans un riad à Marrakech, les entreprises auraient l'idée de venir dépolluer la France et de passer
un bon
moment un peu fun ? Est-ce qu'on arrive à les embarquer
Ça fait encore une fois partie des problématiques des associations, c'est qu'on ne peut pas vraiment nous démarcher des entreprises et leur dire « Tenez, c'est payant ». Donc on a par contre énormément d'entreprises qui nous contactent.
Mmh.
Ça s'est fait très rapidement, dès la deuxième année en fait, avec la visibilité qu'on avait sur les réseaux. On a très rapidement été contacté. Au début, on faisait ça gratuitement. Après, on a commencé à se dire « Bon, on va peut-être quand même faire payer les entreprises. » Mais non, c'est très cool. Globalement, tout le monde joue le jeu. Genre, les salariés sont assez open au discours qu'on a. Ils sont très gentils, très sensibilisés, tout ça. Il y a eu, bien évidemment, quelques exceptions. Comme je te disais en off tout à l'heure, une entreprise qui vient dépolluer dans les calanques et qui vient de Paris en avion. Mmh. Enfin, ça n'avait aucun sens. Ou des entreprises qui refusent de faire une dépollution avec nous parce qu'ils refusent de manger végétarien sur un repas, parce que c'est ce qu'on impose. Oh là là, nous sommes horribles de ne pas manger de viande quand on fait une dépollution avec nous. Mais 90% du temps, ils jouent très bien le jeu, ils sont très cool et les messages passent, quoi, donc c'est cool. Après, ce qu'on fait, ça reste le niveau 1 de l'écologie, c'est-à-dire le déchet jeté par terre, c'est pas bien. C'est beaucoup plus profond que ça, l'écologie, on s'en est bien rendu compte dans l'équipe, justement, à force de bosser dans ce milieu-là. Mais on reste sur un premier niveau avec les entreprises.
D'accord. Et parce que du coup, là, justement, tu parlais là, de ne pas jeter son déchet dans la nature, qui semble être le niveau 1. Est-ce que vous abordez aussi les sujets de zéro déchet ? Comment, voilà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit
pas.
Ouais. Comme on dit souvent. Après, peut-être qu'il y a d'autres associations, comme par exemple Zero Waste Marseille, qui le font déjà très bien.
On fait au feeling. C'est-à-dire qu'en fonction de la capacité de réception de l'audience, on va aller plus ou moins loin dans le discours. Par exemple, il y a des fois une dépollution entreprise, on a commencé à parler de réduire sa consommation de viande, et de suite, on a eu l'impression qu'on insultait leur famille, donc on a dit « Bon, pas de souci, on revient au niveau 1 ». Si on voit, au contraire, qu'ils sont eux-mêmes déjà très sensibilisés, on essaie d'aller un peu plus loin, mais ça se fait de manière très, très douce, parce qu'en fait, malheureusement, l'écologie, c'est un sujet qui touche les gens très profondément dans leur intimité, dans leur vie, etc., qui est très sujet à susceptibilité. Donc, ils ont l'impression tout de suite que tu les attaques et que tu les juges si tu oses remettre en question quelque chose qu'ils font. Et c'est l'humain qui est comme ça, hein, malheureusement. C'est pas comme, tu vois, d'autres causes où tout le monde se met d'accord. Oui, il faut aider les femmes battues. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire ça. Tu vois, personne va te dire, oh, t'abuses un peu quand même. Alors que l'écologie, dès que tu touches un peu à des cordes sensibles des gens, tu peux très vite te confronter à un mur. Donc, il faut y aller étape par étape, très doucement, sans jugement, pour arriver à avoir un discours constructif, parce que sinon, les gens, ils se braquent, en fait.
Et alors, tu parlais tout à l'heure des entreprises. Est-ce qu'on, quand on est une association comme vous, est-ce qu'on accepte l'argent des entreprises? Comment on fait? Est-ce qu'on a une charte de go-no-go? Est-ce que...
Quand c'est pour une dépollution, on accepte toutes les entreprises, parce qu'on considère que les salariés d'une entreprise ne sont pas responsables des activités, forcément, de leur... direction, on va dire, et que nous, notre but, c'est de sensibiliser les gens. Si on sensibilise que Biocop, Bio c'est bon, Patagonia, enfin, quel intérêt? Le but, c'est justement d'aller toucher les personnes qui sont peut-être moins sensibilisées. Par contre, nous, c'est une politique qu'on a depuis le début, c'est qu'on ne communique jamais sur les entreprises avec lesquelles on fait des dépollutions. Eux peuvent communiquer de leur côté, mais nous, on va toujours dire dépoll entreprise, mais ce sera jamais mentionné, on va pas filmer les logos, on va pas les mettre en avant. Par contre, on refuse les dons d'entreprises qui ne sont pas du tout en accord avec nos valeurs. Parfois, on veut nous faire des dons, mais sous clause d'exclusivité, on refuse. Et c'est pour ça que c'est très dur aussi de se faire subventionner et d'avoir des mécènes. C'est que on ne veut pas que les entreprises fassent du greenwashing sur notre dos, quoi. Nous payer pour faire une dépollution, c'est pas pareil, tu
vois. Non, complètement. Ça permet de, ça a un pouvoir transformateur. Ouais.
Et on est sur une radio associative, donc on peut dire ce qu'on veut, mais sans forcément name shame. Mais est-ce que ce sont surtout des entreprises du secteur bancaire, du secteur pétrolier que vous refusez, ou bien même des secteurs agroalimentaires, beaucoup de plastique,
des banques?
Ouais.
BNP Paribas, tu vois. BNP, on a déjà fait des dépollutions avec eux, par exemple, mais hors de question d'aller toucher leur fonds de dotation, tu vois. McDo, récemment, qui voulait échanger avec nous, sauf que j'avais vu le reportage de Élise Lucet, j'ai dit non. Hors de question. Traitez mieux vos salariés, on en reparlera plus tard. Voilà, plein de... En soi, ouais, il y en a eu pas mal quand même, mais c'est surtout nous qui n'allons pas les chercher alors qu'on pourrait, pour se faire financer, quoi. Parce qu'elles ont la donation facile, les entreprises comme ça.
Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette mobilisation citoyenne, elle ait encore plus de poids, pour que les gens s'engagent plus dans l'écologie?
Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de montrer que l'écologie, comme on disait tout à l'heure, ça peut être cool, ça peut être fun, qu'il n'y a pas besoin d'être... Il y a souvent ce stéréotype un peu autour de l'écologie, où c'est un truc très élitiste, où c'est réservé à une certaine catégorie de la population, ce qui est vrai, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le loisir de se dire « Ah, ok, comment je vais faire pour être engagé sur l'écologie ?» Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses où... économiquement et écologiquement, ça se rejoint. Et en fait, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à montrer aux gens et à expliquer aux gens que, en fait, c'est pas un truc hyper hyper compliqué, et qu'il y a des choses du quotidien qui font déjà peut-être qui peuvent rentrer dans cette logique-là d'écologie. Et en fait, moi, je vois vraiment les gens qu'on rencontre, des fois, ils sont là, ah, mais je pensais que ça allait être, voilà, que ça allait être un truc de fou et tout, mais en fait, non, il y a des choses que je fais déjà qui sont de, par exemple, de covoiturer, par exemple, c'est quelque chose de très simple, mais ça rentre dans ces logiques-là. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à démystifier un peu autour de toutes ces croyances que l'écologie, c'est vraiment un truc réservé à certaines personnes, qu'on ne peut pas s'engager, alors qu'il y a des petits actes du quotidien qui sont des engagements écologiques.
Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, mais aussi à ce que tu disais tout à l'heure concernant les ramassages qui sont rendus fun grâce à Clean My Calanque, de la musique, des concours, des choses à gagner, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est la joie militante. Comment on va mettre de la joie, rendre désirable ces moments qu'on partage avec d'autres personnes qui font sens, et voilà, ça contribue aussi à se mettre en action et à le rendre désirable à tous et toutes, c'est de mettre de la joie. Donc voilà, c'était...
Non, mais tu as tout à fait raison.
Et du lien social, tout à fait.
Exactement, parce que c'est très important aussi.
Comment, selon vous, on pourrait répliquer, transformer ce type d'initiative? Donc nous, c'est dans vous, en tout cas, je me mets déjà dedans, nous, c'est dans les calanques.
Parce que tu vas venir avec nous.
Ça y est, j'ai déjà un pied dans les calanques. C'est une initiative très locale. Est-ce que on peut imaginer répliquer ce type d'initiative ailleurs, en France? Comment on fait pour en faire un mouvement global? Est-ce que vous, c'est votre ambition? Est-ce que vous êtes très bien ici?
Bah, nous, on est très bien ici. On veut surtout pas que nos valeurs se perdent. Et malheureusement, je trouve que quand un projet se développe au national, à l'international, forcément, bah, tu fais rentrer des personnes dans le projet qui n'étaient pas celles de base, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Tu peux pas forcément fliquer ce que fait ou ce que dit tout le monde. Et nous, on n'a vraiment pas envie de perdre bah, cette dynamique qu'on a au sein de l'équipe, qui est très bienveillante, très douce, très... Enfin, on s'entend tous très bien et on est d'accord sur la vision qu'on a avec l'asso. Du coup, on n'a pas forcément envie de s'étendre. Par contre, on est toujours hyper ouvert quand des personnes nous contactent pour prendre des conseils, comment on a fait pour avoir des partenaires avec des entreprises, comment on a fait pour se faire connaître sur les réseaux, etc. Moi, je donne librement même des cours de communication dès que des personnes me le demandent. On a un prof au Togo, par exemple, qui nous a contactés pour nous dire qu'il faisait déjà des ramassages avec ses élèves et est-ce qu'on pouvait lui envoyer du matériel. On a lancé une cagnotte et du coup, on a une antenne Brigade Verte au Togo. Donc nous, on est très open à laisser les gens lancer leurs projets en donnant nous toutes les infos, tout comme on a fait. Mais en fait, malheureusement, c'est juste du temps et de l'énergie, quoi. Il n'y a pas non plus de sauce secrète, à part du bénévolat et beaucoup de travail. Et après, ce que je te disais, c'est que, par exemple, les brigades vertes et les brigades bleues, nous, on serait très chaud de mettre le projet, alors je ne sais pas encore comment, mais en mode open source, que n'importe quelle association dans n'importe quelle ville bah, puisse lancer le même projet, se faire subventionner par ses collectivités locales à elles. Et nous, enfin, sur ça, on n'est pas du tout en train de gatekeeper. Donc,
parce que je rajouterais que ce qui, pour moi, ne fait pas sens dans le fait d'exporter forcément ce projet au niveau national et international, c'est que ce qui marche aussi beaucoup dans le climat calanque, c'est un peu l'identité marseillaise. Parce que l'équipe qui a lancé ça, c'est des Marseillais qui font ça pour des Marseillais. Et ça, tu vois, ce côté un peu chauvin, j'ai envie de dire, ça appelle et ça, les gens se reconnaissent là-dedans. Donc pour moi, ce concept-là est à exporter. Mmh. Pas le concept climat calanque en lui-même, tu vois, mais le concept de ben, dans ta ville, c'est quelque chose, il faut aller chercher les gens et en général les gens sont très fiers d'être de là où ils viennent quoi. Donc ça peut être
dans
un bon
ta
moyen
ville,
de...
dans ta montagne, dans ta
c'est
forêt,
ça, exactement.
Le coin de nature à côté de toi.
Exactement.
Il nous reste quelques minutes, je vais vous demander est-ce qu'il y a une œuvre, un livre, un film, une citation qui vous inspire au quotidien dans votre engagement, vos nutriments essentiels dans notre cheminement de l'arbre?
Moi, je sais qu'une citation qui a beaucoup inspiré Eric pour Climat Calanque, c'est celle du colibri dans la forêt. Il y a des gens qui ne la connaissent pas, celle-là, du coup, je la raconte. La forêt prend feu, tous les animaux se cassent, sauf le colibri. Le colibri reste, il fait des allers-retours, il est foufou, il prend de l'eau, il le jette sur les flammes, etc. Il croise un blaireau, je crois, je ne sais plus dans l'histoire, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir? Enfin, pars avec nous, sinon tu vas rester là, quoi. » Et il lui dit « Bah ouais, mais moi, au moins, je fais ma part. Et si on faisait tous notre part, bah peut-être que la forêt, elle ne brûlerait pas. » Et c'est ça qu'on essaie de véhiculer dans l'idée de Climat Calanque, de vraiment tous les gestes comptent. C'est que souvent les gens en fait nous disent mais moi j'ai l'impression que bah ça sert à rien, que c'est juste un petit geste parmi 7 milliards de pas petits, enfin d'autres petits gestes et que tout le monde s'en fout. Et ce que Eric dit beaucoup en sensibilisation, parce que c'est lui qui fait beaucoup les sensibles dans les écoles, c'est que c'est 7 milliards de petits gestes qui ont fait le mal dans lequel on est aujourd'hui, quoi. C'est de prendre ta voiture alors que t'aurais pu prendre le métro, c'est de manger de la viande alors que t'aurais pu manger végétarien aujourd'hui. Donc les petits gestes, fois la quantité d'êtres humains qu'on est sur Terre, au contraire, ils sont très importants. Donc il y a ça, c'est ce petit colibri. Ça te va ?
Ça me va très bien. Et toi, personnellement ?
Moi, personnellement, j'ai pris une grosse claque quand j'ai lu la BD de Jean-Marc Jancovici, Un monde sans fin, je crois, elle s'appelle, qui, c'est un scientifique, lui, de base, un ingénieur, je crois. Du coup, il a vraiment énormément vulgarisé de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, il démarre très tôt, je crois, même il fait la... Je ne sais plus quel âge néolithique j'allais dire, mais je dis peut-être n'importe quoi, mais bref. Et en gros, il retrace l'évolution de l'homme et notamment de notre utilisation de l'énergie. Mmh. Et c'est très vulgarisé. Par exemple, il t'explique avec 10 cyclistes qui montent une pente pendant je ne sais pas combien de minutes. Bah ça, c'est l'énergie que tu dépenses pour juste monter un étage avec ton ascenseur, quoi. Et ça m'a un peu mis une claque parce que je me suis rendu compte, en effet, de tout... On est né, surtout nous, avec la technologie, parce que mes parents un peu moins, tu vois, mais on est né, c'était déjà là. On s'est pas rendu compte de tout ce que ça impliquait, tout ce que ça coûtait, tout ce que ça consommait, en fait, ce avec quoi on est né autour de nous. Et j'ai beaucoup aimé le lire, parce que ça m'a permis de me rendre compte. Et du coup, bah, maintenant, je prends plus l'ascenseur.
Tu fais ta part du colibri.
C'est ça.
Pour reboucler la boucle, toi, Clara.
Moi, j'ai envie de parler du livre de Bon Pote, qui est un activiste, c'est oui. Tout comprendre ou presque sur le climat, parce que c'est, pour moi, c'est vraiment ce livre qui m'a un peu aussi aidé dans ma démarche à me rendre compte, en fait, que, encore une fois, c'est l'écologie, c'est quelque chose qui peut être accessible à tout le monde et qu'il y a beaucoup de choses à débunker, j'ai un peu envie de dire, là-dedans. Et c'était très intéressant. C'est pareil, c'est de la vulgarisation de faits scientifiques. Il est très bien fait et franchement, ça m'a permis de me dire, ok, je peux moi aussi être actrice là-dedans et pas... Enfin, il n'y a pas besoin d'être scientifique, d'avoir fait des années d'études pour comprendre le climat et comment ça marche. Donc, ça m'a beaucoup aidé et je l'ai passé à beaucoup de monde pour leur dire, ben voilà, toi aussi, tu peux... prendre ta part et faire partie, enfin faire comme le colibri.
Ben merci beaucoup en tout cas pour ces ressources qui, merci, je suis sûr, seront utiles à nos auditeurices. Et on va finir sur notre petite question surprise hein, qu'on fait à chaque fois et qu'on adore ici. C'est on va vous demander de fermer les yeux, okay. Et on va se projeter ensemble en 2040. Vous êtes dans la ville de Marseille. Nous sommes en 2040, il fait beau, comme d'habitude, et vous marchez, vous ressentez, vous sentez l'air frais. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous?
L'air frais en 2040 à Marseille, t'es sûr?
Ouais, je me suis coupé dans ma méditation. Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Et surtout, un rêve s'est réalisé pour la transition écologique et sociale de cette belle ville qu'est Marseille. Et quel est-il, ce rêve? Que voyez-vous? Ouvrez les yeux et partagez-le nous.
Moi, je vois une ville un peu transformée, avec beaucoup moins de béton, beaucoup plus végétalisée. Le retour de la nature. Je vois aussi beaucoup de mobilité douce. Je vois en fait un peu... je vois plus le mode de vie qu'on a actuellement, qui est de vivre rapidement, d'aller, de faire plein de choses, de capitalisme. Et ouais, un mode de vie qui est beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche de nos racines aussi, et où les gens sont moins stressés, plus heureux de vivre, et parce que quand on est entouré de nature... on est tout de suite plus heureux. Donc je vois une ville, j'espère, il y a une utopie peut-être dedans, ou peut-être pas, mais beaucoup plus, beaucoup moins ville, j'ai envie de dire.
Merci. Et toi?
Je suis Céline. Plutôt d'accord. Je suis dans le même Marseille que Clara. Il y a des vélos de partout.
En 2040, qu'est devenu Clean My Calanque?
Clean My Calanque, je l'espère, a cessé d'exister dans sa forme première. Nous ne faisons plus de dépollution puisqu'il n'y a plus de déchets ramassés. Nous ne faisons que du conseil et de la sensibilisation dans les écoles et auprès des entreprises. Voilà. Nous avons atteint notre objectif.
Eh bien, on vous le souhaite en tout cas.
Merci.
Et avant de nous quitter, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurices? On vous retrouve où déjà prochainement? On vous retrouve à la Friche déjà?
Oui, venez le 31 mai. Clara, je te laisse présenter ce beau festival sur lequel tu travailles depuis des mois.
Nous lançons notre festival, donc le 31 mai, samedi 31 mai à la Friche. Ça sera de 15h30 à 5h du matin. On est sur une journée complète où il y a plein de choses. Il va y avoir des conférences, du stand-up, des stands associatifs. On aura des concerts. On aura vraiment plein de choses. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, pour tous les publics aussi. Donc, ça va être très cool et on vous invite à prendre vos places.
C'est gratuit l'après-midi et c'est payant, mais pas très cher sur le reste de la soirée. On sera vraiment place des quais, puis toi terrasse, puis cabaret aléatoire.
C'est ça. Et on est sur
trois moments différents.
On est sur des formules très accessibles parce qu'on avait la volonté de faire un festival accessible à tout le monde, puisque le but de ce festival est de sensibiliser, encore une fois, un maximum de personnes.
Eh bien super, eh ben vous qui nous écoutez, venez à ce festival à la Friche La Belle de Mai, le 31 mai, après-midi et soir. Et je vous remercie toutes les deux.
Merci beaucoup tous les deux
d'avoir
pour
été
votre
avec
accueil,
nous,
enfin tous les quatre.
Merci sur La Forêt des Possibles. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Galère 88.4 FM. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.